Maurice Leblanc, Dorothée danseuse de cordes, chapitre 12, l'élixir de résurrection. Dorothée ne répondit pas, tout absorbée encore par l'étrange missive du marquis. Ses compagnons, les yeux fixés sur elle, semblaient attendre que la jeune fille exprimât une opinion. Et, comme elle se taisait, George Harrington de Londres répéta « Good joke !» Elle secoua la tête. « Est-ce bien sûr, cousin, que ce soit une plaisanterie ?»« Oh, mademoiselle, pensez donc. Cette résurrection, l'élixir, les diamants cachés. »« Ça, je ne dis pas, » fit Dorothée en souriant. « Le bonhomme me paraît un peu détraqué. Toujours est-il que la lettre qu'il nous adresse est certainement authentique, qu'après 2 siècles, nous sommes venus à son rendez-vous comme il l'avait prévu, et que, en définitive, nous sommes bien de la même famille. Je crois alors qu'on pourrait s'embrasser de nouveau, mademoiselle. Mon Dieu, répliqua Dorothée, si notre aïeul le permet, je veux bien, moi, mais il nous le permet. Allons le lui demander. Maître de la rue protesta. Vous irez sans moi, mademoiselle, je vous l'assure. Comprenez bien que je ne vais pas aller voir si Jean-Pierre Augustin de la Roche, marquis de Beaugreval, est encore en vie à l'âge de 262 ans. Mais ce n'est pas si vieux que ça, maître de la rue. Nous ne devons pas compter les 200 ans de sommeil. Alors quoi, 62 ans, c'est tout à fait normal. Son ami, monsieur de Fontenelle, est bien mort à 100 ans. Comme le lui avait prédit M. de Beaugreval, et grâce à un élixir de longue vie. Marco Dano demanda « Enfin, vous n'y croyez pas, mademoiselle ?»« Non, mais tout de même, il doit y avoir quelque chose. »« Quelle autre chose ?»« Nous le saurons tout à l'heure. Pour l'instant, je vous avoue, à ma honte, que je voudrais bien auparavant. Quoi ?» Elle se mit à rire. « Eh bien voilà, j'ai faim. Mais une faim de 200 ans, une faim comme doit en éprouver le marquis de Beaugreval. L'un d'entre vous n'aurait pas... » 3 des jeunes gens bondirent. L'un courut vers sa moto, les 2 autres vers leurs chevaux. Chacun avait des sacoches remplies de provisions qu'ils apportèrent et rangèrent sur l'herbe aux pieds de Dorothée. Le russe Kourobelev, qui ne possédait qu'un morceau de pain, poussa devant elle en guise de table une grande pierre plate. « Oh, c'est vraiment gentil, » dit-elle en battant des mains, « un déjeuner de famille. Nous vous invitons, maître de la rue. Et vous aussi, soldat de Vrangel. » Le repas fut joyeux, arrosé de bon vin d'Anjou. Ils burent à la santé du digne gentilhomme qui avait eu l'excellente idée de les réunir dans son château. Et Webster proposa un banc en son honneur. Mais au fond, les diamants, le codicille, la survie du gentilhomme, sa résurrection, autant de billevesées auxquelles ils ne pensaient plus. L'aventure se terminait pour eux avec la lecture de la lettre et avec le repas improvisé. Et combien déjà elle était extraordinaire! « Et si amusante, » disait Dorothée, qui ne cessait de rire. « Je vous assure que je ne me suis jamais tant amusée, mais jamais. » Ses 4 cousins, comme elle les appelait, s'empressaient autour d'elle, attentifs à ses moindres gestes, riant et s'étonnant de ses paroles. Du premier coup, ils la connaissaient et elle les connaissait, sans qu'ils eussent tous les 5 à passer par les phrases habituelles des relations entre gens qui ne se sont jamais vus. Elle était pour eux la grâce, la beauté, l'esprit, la fraîcheur. Elle représentait le pays charmant d'où jadis leurs ancêtres étaient partis, et ils la retrouvaient à la fois comme une sœur dont on est fier et comme une femme que l'on voudrait conquérir. Rivaux déjà, ils tâchaient de se faire valoir les uns aux dépens des autres. Harrington, Webster et Dario organisèrent des luttes, des tours de force, des jeux d'équilibre, des courses. Comme récompense, ils n'en demandaient qu'une à Dorothée, reine du tournoi, c'était d'être regardée par elle. par ses beaux yeux dont ils subissaient la séduction profonde et qui leur semblaient soudain les plus beaux yeux qu'ils eussent jamais vus. Mais le vainqueur du tournoi, ce fut Dorothée. Dès qu'elle y prit part, les autres n'eurent plus qu'à s'asseoir, à regarder et à s'émerveiller. Un pan de mur, dont le faîte était mince et presque coupant, lui servit de corde raide. Elle escalada des arbres, d'où elle se laissait tomber de branche en branche. Sautant sur le grand cheval de Dario, elle exigea de lui des pas de haute école. Puis, saisissant la bride du poney, elle fit de la voltige sur les deux chevaux, à califourchon, couché ou debout. Et tout cela décemment, avec une grâce où il y avait de la pudeur, de la réserve et nulle coquetterie. Les jeunes gens montraient de l'enthousiasme et de la stupeur. L'acrobate les ravissait, mais la jeune fille leur imposait un respect dont aucun d'eux n'eût songé à se départir. Qu'était-elle? Ils l'appelaient princesse en riant, mais leur rire avait de la déférence. En réalité, ils ne comprenaient pas. Ce n'est qu'à 3 heures de l'après-midi qu'on résolut d'entreprendre la fin de l'expédition. Ils y allèrent tous comme à une partie de plaisir. Maître de la rue, à qui le petit vin d'Anjou montait un peu à la tête, sa cravate dénouée, son chapeau de forme en arrière, enfourcha son âne et ouvrit la marche en chantant des couplets sur la résurrection du marquis Lazare. Dario, de Gênes, imitait un accompagnement de mandoline. Errington et Webster tenaient au-dessus de la tête de Dorothée, pour la garantir du soleil, une ombrelle faite de fougères et de fleurs sauvages. On contourna le monticule que formaient derrière l'horloge les débris de l'ancien château et l'on suivit une belle avenue d'arbres centenaires qui aboutissait à un rond-point au milieu duquel se dressait un chêne magnifique. Maître de la rue annonça d'un ton de cicérone « Voici les arbres que planta le père de monsieur de Beaugreval. Vous remarquerez leur vigueur, arbres vénérables s'il en fut. Voici le chêne roi. Des générations entières s'y sont abritées. Chapeau bas, messieurs. » Puis ils atteignirent les pentes broussailleuses d'une petite colline, au sommet de laquelle, après un talus circulaire qui représentait les vestiges d'une enceinte intérieure, se dressait la carcasse d'une tour de forme ovale. « La tour Coquezin, » débita maître de la rue, de plus en plus exubérant. « Ruine véritable s'il en fut, reste du donjon féodal. » C'est là que nous attend le marquis au bois dormant, seigneur de Beaugreval, que nous allons ressusciter avec un doigt d'élixir mousseux. Le ciel bleu apparaissait à travers les fenêtres vides. Des pans de murs entiers s'étaient écroulés. Cependant, toute une partie à droite semblait intacte, et s'il y avait réellement un escalier et une habitation quelconque, comme le prétendait le marquis, ce ne pouvait être que dans cette partie. Maintenant s'ouvrait devant eux l'arche contre laquelle se rabattait autrefois le pont-levis. Les abords en étaient encombrés d'un tel amoncellement de ronces et d'arbustes entrelacés qu'il leur fallut un long temps avant d'atteindre la voûte où se trouvaient les pierres indiquées par le marquis de Beaugreval. Là, nouvel obstacle et nouvel effort pour se frayer un double chemin vers les deux parois. « Nous y sommes, » dit enfin Dorothée, qui avait dirigé les travaux, « et nous pouvons être sûrs que personne ne nous a précédés. » Avant de commencer l'opération prescrite, ils allèrent jusqu'à l'extrémité de la voûte. Elle s'ouvrait sur la nef immense que formait l'intérieur du donjon, vidé de ses étages, sans autre toit que le ciel. On voyait 4 creux de cheminée qui se superposaient sous des manteaux de pierres sculptées où des plantes sauvages habitaient. En bas, on eût dit l'arène ovale d'un cirque romain, avec une série de petites salles voûtée par en dessus, dont on apercevait les orifices béants, et que des couloirs étroits séparaient en groupes distincts. Les visiteurs qui se risquent à la roche Périac peuvent entrer de ce côté, observa Dorothée. Les noces des environs doivent y venir à l'occasion. Tenez, il y a des papiers gras sur le sol et des boîtes de sardines. Ce qui est curieux, dit Webster, c'est que la voûte du pont-levis n'ait pas été déblayée. Par qui ? Croyez-vous que les promeneurs vont perdre leur temps à faire ce que nous avons fait, alors qu'il y a en face des issues naturelles ? Il ne semblait guère pressé de se remettre à l'ouvrage et de vérifier les assertions du marquis, et ce fut plutôt par acquis de conscience et pour avoir le droit de se dire, sans arrière-pensée, « l'aventure est finie », qu'ils attaquèrent les parois de la voûte. Dorothée, aussi sceptique que les autres, reprit le commandement avec nonchalance. « Bon, allons-y, cousin. Vous n'êtes pas venu d'Amérique et de Russie pour vous croiser les bras. Nous devons à notre ancêtre la preuve de notre bonne volonté et gagner le droit de jeter nos médailles d'or au fond de nos tiroirs. Dario de Gênes, Errington de Londres, veuillez respectivement pousser... Chacun de votre côté, la troisième pierre en hauteur. Oui, ces deux-ci, puisque voici la rainure où glissait l'ancienne herse. Les pierres se trouvaient assez haut, de sorte que l'Italien et l'Anglais ne les atteignirent qu'en levant les bras. Conseillés par Dorothée, ils grimpèrent sur les épaules de leurs camarades, Webster et Courbet-Lev. Êtes-vous prêts ? « Nous sommes prêts, » répondirent Errington et Dario. « Alors, poussez doucement et d'une façon continue. Et surtout, ayez la foi. Maître Delarue n'a pas la foi. Aussi, je ne lui demande rien. » Les deux jeunes gens avaient appliqué leurs mains sur les deux pierres et pesaient fortement. Dorothée plaisantait. « Allons, un peu de nerfs, s'il vous plaît, messieurs. » Les affirmations du marquis sont paroles d'évangile. Il a écrit que la pierre de droite basculerait. Que la pierre de droite bascule. La mienne remue, dit l'anglais à gauche. La mienne également, déclara l'italien à droite. Pas possible, s'écria Dorothée incrédule. Mais oui, affirma l'anglais. Celle de dessus aussi. Elles s'enfoncent toutes deux par le haut. » Il n'avait pas achevé ces mots que les deux pierres, formant bloc, basculèrent à l'intérieur et découvrirent un palier où dans l'ombre on apercevait quelques marches. L'anglais jeta un cri de triomphe. « Ce brave gentleman n'a pas menti. Voici l'escalier !» Ils demeurèrent un moment interdits. Non pas que l'événement fût bien extraordinaire, mais il apportait une première confirmation à ce qu'avait annoncé le marquis de Bougreval, et ils se demandaient malgré eux si les autres prédictions ne se réaliseraient pas avec la même exactitude. Au cas où il y aurait vraiment 132 marches, dit Errington, je me déclare convaincu. « Quoi ?» fit maître Delarue, qui semblait lui aussi fort impressionné. « Vous oseriez prétendre que le marquis... »« Que le marquis nous attend, comme un monsieur averti de notre visite. »« Vous déraisonnez, bougonna le notaire, n'est-ce pas, mademoiselle ?» Les jeunes gens le hissèrent sur le palier. Dorothée les rejoignit. Deux lampes de poche remplacèrent les torches prévu par M. de Bougreval, et l'on se mit à escalader les très hautes marches qui tournaient sur elles-mêmes dans un espace très restreint. 15, 16, 17, comptait Dario. Pour se donner du cœur, maître Delarue chantait les couplets de « La tour prend garde ». Mais à la 30e marche, il dut se reposer. L'ascension est rude, n'est-ce pas ? Dit la jeune fille.
Oui, oui, mais c'est surtout l'idée que nous rendons visite à un mort. Ça me coupe les jambes.
À la 50e marche, un trou dans le mur laissait passer la lumière. Dorothée s'y glissa et aperçut les bois de la roche, mais une corniche avancée ne permettait pas de voir le pied du donjon. On continua la montée. Maître de la rue chantonnait d'une voix de plus en plus chevrotante, qui, à la fin, exhalait plutôt des gémissements.
Dario comptait 100, 110, 120.
À 132, il annonça « Un mur barre l'escalier ». En cela non plus, notre aïeul n'a pas menti.
« Il y a bien 3 briques incorporées dans la marche ?» demanda Dorothée.
« Elles y sont. »«
Et un pic de fer ? Le voici. »«
Allons, tout est bien conforme au testament, » dit-elle en achevant l'ascension et en examinant les lieux.
« Nous n'avons qu'à obéir à cet excellent homme. »
Elle ordonna.
« Webster, démolissez le mur. » Ce n'est qu'un panneau de plâtre.
Au premier choc, en effet, le mur s'écroula, démasquant une petite porte trapue.
Crebleu, marmotta le notaire qui n'essayait plus de masquer son inquiétude. Le programme s'exécute point par point.
Ah ah, fit Dorothée malicieusement. Vous devenez moins sceptique, hein, maître de la rue? Pour un peu, vous affirmeriez que la porte va s'ouvrir.
Je l'affirme. Ce vieux fou était un mécanicien habile et un metteur en scène de premier ordre.
Vous parlez de lui comme s'il était mort, remarqua Dorothée.
Le notaire lui saisit le bras.
Évidemment. Car enfin, quoi ? Je veux bien admettre qu'il est là. Mais pas vivant, non, pas vivant.
Elle posa son pied sur l'une des briques. Harrington et Dario pressèrent les deux autres. La porte eut un soubresaut violent, puis s'ébranla et glissa sur ses gonds.
Santa Madonna, chuchota Dario, nous sommes en plein miracle. Va-t-on voir Satan ?
À la lueur des lampes, il discernait une chambre assez vaste, sans fenêtre, au plafond cintré. Aucun ornement sur les murs de pierre, aucun meuble. Mais à gauche, on devinait une autre pièce plus basse, qui constituait une sorte d'alcôve. Et cette alcôve était cachée par une tapisserie, clouée grossièrement sur une poutre. Les 5 hommes et Dorothée ne bougeaient pas. Silencieux, immobile. Maître de la rue, très pâle, ne semblait pas à l'aise. Était-ce les fumées du vin ou l'angoisse du mystère ? Personne ne souriait plus. Dorothée ne pouvait détacher son regard de la tapisserie. Ainsi, l'aventure ne s'arrêtait ni à la rencontre prodigieuse des héritiers du marquis, ni à la lecture de ses volontés fantastiques. Elle allait jusqu'au creux de la vieille tour où nul n'avait pénétré et jusqu'au seuil même de la retraite inviolable où le marquis avait bu le breuvage qui endort. Ou qui tue. Qu'y avait-il derrière la tapisserie ? Un lit, sans doute, quelques vêtements qui gardaient peut-être la forme du corps qu'ils avaient recouvert. Et puis, une poignée de cendres. Elle tourna la tête vers ses compagnons comme pour leur dire « Est-ce moi qui marcherai la première ?» Ils restèrent immobiles, indécis, gênés. Alors elle avança d'un pas et ensuite de 2 pas. La tapisserie se trouva bientôt à sa portée. D'une main hésitante, elle en saisit la bordure et la souleva lentement, tandis que les jeunes gens s'approchaient.
La lueur des lampes fut projetée. Dans le fond de la pièce, il y avait un lit, et sur ce lit, un homme couché. Cette vision était malgré tout si inattendue que Dorothée eut quelques secondes de défaillance et qu'elle laissa retomber le rideau. Ce fut Archibald Webster qui, très troublé, le releva vivement et marcha vers cet homme endormi, comme s'il eût voulu le secouer et le réveiller d'un coup. Les autres se précipitèrent. Archibald, du reste, s'était arrêté près du lit, le bras suspendu, et il n'osait plus faire un mouvement. C'était un homme à qui l'on pouvait donner 60 ans, mais dont l'étrange pâleur, dont la peau entièrement décolorée, sous laquelle ne courait pas une goutte de sang, avait quelque chose qui n'était d'aucun âge. Une face absolument glabre, aucun cil, aucun sourcil, un nez au cartilage transparent, comme le nez de certains tuberculeux, point de chair, une mâchoire, des os, des pommettes, de vastes paupières rabattues et ridées composaient toute la figure, entre deux oreilles décollées et au-dessous d'un front énorme que prolongeait un crâne entièrement nu.
Le doigt,
souffla Dorothée. Le quatrième doigt de la main gauche manquait, coupé au ras de la paume, exactement comme l'avait annoncé le testament. L'homme était revêtu d'un costume de drap marron, avec gilet de soie noire brodé de vert et culotte courte. Ses bas étaient en laine fine. Tout cela usé, à demi mangé au vert, il n'avait point de chaussures. « Il doit être mort ! » fit l'un des jeunes gens à voix basse. Pour s'en assurer, il lui fallut se pencher et appliquer l'oreille contre la poitrine à l'endroit du cœur. Mais on avait cette impression bizarre qu'au premier contact, cette forme d'homme tomberait en poussière et que tout s'évanouirait ainsi qu'un fantôme. Et puis, tenter une pareille expérience n'était-ce point commettre un sacrilège ? Douter de la mort et interroger un cadavre, personne ne l'osait. La jeune fille frissonna, ses nerfs de femme tendus à l'excès. Maître de la rue la conjura.
« Allons-nous-en, allons-nous-en, cela ne nous regarde pas. C'est une besogne satanique. »
Mais George Harrington eut une idée. Il tira de sa poche un petit miroir et le tint devant les lèvres de l'homme. Au bout d'un instant, la glace se ternit légèrement.
« Oh ! » balbutia-t-il, « je crois qu'il vit !»« Il vit ! Il vit !» chuchotèrent les jeunes gens avec une agitation contenue.
Maître de la rue dut s'asseoir sur le bord du lit, tellement ses jambes tremblaient, et il répétait sans cesse.
« Besogne satanique, nous n'avons pas le droit, pas le droit !»
Ils se regardaient tous avec inquiétude. L'idée que ce mort vivait, car il était mort, incontestablement mort, l'idée que ce mort vivait les heurtait comme une chose monstrueuse. Et cependant, les preuves de son existence ne valaient-elles pas celles de sa mort ? Il croyait à sa mort parce qu'il était impossible qu'il fût vivant. Mais pouvait-il renier le témoignage de leurs propres yeux parce que ce témoignage était contraire à la logique ? Dorothée prononça.
« Voyez, voyez, sa poitrine se soulève et s'abaisse. Oh, à peine, mais enfin tout de même, il n'est pas mort. »
On protesta.
« Non, non, c'est inadmissible. Comment pourrait-on expliquer un pareil phénomène ?»«
Je ne sais pas, fit-elle lentement. Ce serait une sorte de léthargie, de sommeil hypnotique.
Un sommeil qui durerait 200 ans. Je ne sais pas, je ne comprends pas.
Alors,
il faut agir. « Dans quel sens ?
dans le sens du testament. Les prescriptions sont formelles. Notre devoir est de les exécuter avec aveuglement et sans réfléchir. Comment ? Mais tâchons de le réveiller avec l'élixir dont parle le testament.
Le voici, fit Marco Dario en prenant sur un escabeau un objet emmailloté d'étoffe d'où il tira une petite fiole de forme vieillotte, lourde, en cristal, avec un ventre rond et un long col que terminait un gros bouchon de cire. Il l'attendit à Dorothée, qui, d'un coup sec sur le bord de l'escabeau, cassa le col. « Quelqu'un de vous a-t-il un couteau ?» demanda-t-elle. « Merci, Webster. Ouvrez-en la lame et introduisez la pointe entre les dents, ainsi qu'il est dit sur la lettre. »
Ils agissaient comme ferait un docteur en face d'un malade qu'il ne sait pas soigner et qu'il traite, sans la moindre hésitation, selon l'ordre formel de la première ordonnance venue. On verrait bien ce qui se passerait. L'essentiel était d'obéir aux instructions.
Archibald Webster eut de la peine à remplir sa tâche. Les lèvres se contractaient et les dents supérieures, noires et gâtées pour la plupart, s'appliquaient aux dents inférieures avec une telle force que la pointe du couteau n'arrivait pas à se frayer un passage. Il fallut l'introduire de bas en haut, puis lever le manche pour desserrer les deux mâchoires.
« Ne bougez plus !» commanda la jeune fille. Elle se courba, sa main droite qui tenait le flacon l'inclina légèrement. Quelques gouttes d'un liquide qui avait la couleur et l'odeur de la chartreuse verte tombèrent entre les lèvres. Puis un mince filet coula du flacon, qui bientôt fut vide.
« C'est fini, » dit Dorothée en se relevant. Elle essaya de sourire en regardant ses compagnons, mais tous avaient les yeux fixés sur l'homme. Elle murmura « Attendons, l'effet ne peut pas être immédiat. »
Et tout en disant ces mots, Dorothée pensait « Alors quoi, j'admets réellement qu'il peut y avoir un effet et que cet homme va sortir de son sommeil, ou plutôt de la mort, car un tel sommeil n'est autre chose que la mort. Non, en vérité, nous sommes victimes d'une hallucination collective. Non, le miroir ne s'est pas terni. Le cœur ne bat pas. Non, mille fois non, on ne ressuscite pas. »
« Voilà 3 minutes, » dit Marco Dario. Et sa montre à la main, il compta. 5 autres minutes passèrent, puis encore 5 autres. Attente vraiment incompréhensible de la part de ces 6 personnes et qui ne pouvaient trouver d'explication que dans la précision mathématique avec laquelle s'étaient produits tous ces événements annoncés par le marquis de Beaugreval. Il y avait là toute une série de faits qui semblaient autant de miracles et qui obligeaient les témoins de ces faits à patienter, tout au moins jusqu'à l'instant fixé pour le miracle suprême.
« 15 minutes !» prononça l'Italien. Quelques secondes encore s'écoulèrent et soudain ils tressaillirent. Une même exclamation sourde leur échappa. Les paupières du cadavre avaient remué. Le phénomène se répéta aussitôt, et si net, si visible, qu'il leur fut impossible de douter. C'était la palpitation de 2 yeux qui veulent s'ouvrir. Et en même temps, les bras bougèrent. Un frisson agita les mains.
« Ah ! Ah !» balbutia le notaire éperdu. « Ah ! Il vit ! Il vit !»